France Inter.
Bonsoir Claire Servajan.
Bonsoir Marine, bonsoir Marie et bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, les États-Unis échouent à faire adopter leur projet de résolution pour un cessez-le-feu à Gaza.
Oui, un texte qui marque une rupture dans la stratégie américaine au Proche-Orient, mais qui s'est heurté au non catégorique de la Chine et de la Russie. Washington parle d'une erreur historique, on part aux États-Unis au début de ce journal.
Et maintenant, que peut faire la France? On posera la question à l'invité de ce journal, Gérard Araud, l'ancien représentant de la France aux Nations Unies. Les autres titres, Céline?
La France et l'Allemagne qui vont construire ensemble le char du futur. On verra que c'est un projet aussi politique que stratégique. On ira aussi au palais de justice de Paris où se poursuit le procès d'un ancien photographe accusé de viol et d'agression sexuelle par 17 femmes. Leurs témoignages se ressemblent beaucoup, nous dira Charlotte Piret. Le gouvernement dit non, une nouvelle fois, à une taxe sur les super profits des entreprises. Cette fois, c'est pourtant la présidente de l'Assemblée nationale qui se disait ouverte à cette idée. Le parcours de la flamme olympique se prépare. Un test grandeur nature était organisé aujourd'hui. Reportage à suivre. Et puis deux pianistes virtuoses, une partition hypnotique et l'univers enchanteur de Cocteau. Voilà les ingrédients du choix culture. Ce sera la fin de ce journal.
Ensuite, à 18h20, une semaine en France avec Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux. À 19h, ce sera le journal d'Hélène Philly. À 19h20, le téléphone sonne avec cette question. À 4 mois des JO, peut-on décerner à la France une médaille pour la charte sociale des Jeux de Paris? Vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Jamais les États-Unis n'avaient soutenu un texte qui mentionnait un cessez-le-feu à Gaza, faisant même usage de leur veto à plusieurs reprises. Mais la position américaine semble s'infléchir à mesure que les semaines passent et que la situation humanitaire se dégrade. Aujourd'hui, aux Nations Unies, c'est donc Washington qui a appelé le Conseil de sécurité à adopter un texte appelant au cessez-le-feu dans la région. Mais cette résolution a terminé comme les précédentes, contrée par plusieurs veto. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir Céline.
Correspondant de France Inter aux États-Unis, cette fois ce sont la Chine et la Russie qui ont fait part de leur opposition au texte.
Oui, écoutez, avant cela, en début de séance, la représentante américaine Linda Thomas-Greenfield avait pris la parole pour présenter le texte des Américains et conjurer, espérait-elle peut-être, l'échec à venir de sa résolution.
C'est une résolution qui a de la force, le produit de négociations exhaustives et inclusives. Elle reflète le consensus de cette Assemblée et ce serait une erreur historique de la part du Conseil de ne pas adopter ce texte.
Voilà, mais ces mots n'ont eu aucun effet sur la Chine et sur la Russie, dont le veto envoie donc le texte américain aux oubliettes. La diplomate a réagi à l'issue du vote.
Ce n'est pas juste cynique, c'était aussi mesquin. La Chine et la Russie ne voulaient simplement pas voter pour un projet rédigé par les États-Unis parce qu'ils préfèrent nous voir échouer que de voir un succès du Conseil.
Mais en face, son collègue russe dénonce lui le spectacle hypocrite des Américains. Il rappelle que Washington, c'est vrai, a voté non depuis le 7 octobre à toute résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat. Il critique aussi le vocabulaire de ce texte qui évoque la nécessité d'un arrêt des combats, mais sans exiger très clairement un tel cessez-le-feu. Alors cela restait, quoi qu'il en soit, la première fois, vous l'évoquiez, que les Américains utilisaient une telle formule. Le signe, sans doute, Céline, que leur patience diminue à l'égard de l'allié israélien et de ses opérations meurtrières à Gaza.
Merci Loïc Loury, en direct de New York pour France Inter. Alors, quelle place pour la diplomatie française après le rejet de cette résolution? C'est ce qu'on va voir, Claire, avec votre invité.
Bonsoir Gérard Araud.
Bonsoir.
Ancien ambassadeur de France aux États-Unis et en Israël. La France a très vite réagi au rejet de cette résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Macron était à Bruxelles pour un sommet européen. Il annonçait que la France allait travailler à une nouvelle résolution. Alors, quelles seraient, selon vous, les conditions pour mettre tout le monde d'accord?
Oh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des conditions pour mettre tout le monde d'accord. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce qui se passe à New York soit vraiment très, très important ou très capital, ou ait la moindre influence sur le terrain. Sur le terrain, comme vous le savez, les Israéliens veulent aller jusqu'au bout pour libérer leurs otages. Et par ailleurs, la négociation qui compte, c'est celle entre les services de renseignement, entre les Qatars, la CIA et le Hamas, pour éventuellement obtenir une trêve et une libération des otages. Ce qui se passe à New York, c'est un peu, je dirais, du narratif. Un narratif capital pour les Américains, car l'administration américaine est dans une position impossible en année électorale.
Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Antony Blinken est au Proche-Orient. Il a rencontré Benjamin Netanyahou ce matin en Israël. Mais ce dernier a dit qu'Israël allait tout de même mener une offensive terrestre, même sans l'aval des Américains. C'est possible, ça, de s'affranchir du soutien américain pour Israël?
Tout à fait, parce que les Américains, au fond, l'administration Biden est piégée parce qu'elle a découvert que sa gauche, la gauche démocrate, était pro-palestinienne. Mais le gros de son électorat est pro-israélien. Et donc, vous avez une administration américaine qui ne peut pas entrer en confrontation directe avec Israël en année électorale. Mais en même temps, comme je l'ai dit, elle doit faire face à la révolte d'une partie de son électorat. Donc, la situation est impossible. Et le projet de résolution américain, d'ailleurs, était une manière de ménager la chèvre et le chou. Comme votre journaliste l'a dit, il n'exigeait pas un cessez-le-feu, il appelait un cessez-le-feu. C'était une, au fond, le veto russo-chinois arrange les Américains, parce que ça va permettre à l'administration américaine de dire à sa gauche, vous voyez bien, j'ai essayé, et finalement, c'est la faute des Russes et des Chinois.
Ça veut dire que les États-Unis ne peuvent pas aller jusqu'à se désolidariser totalement d'un pays qu'ils ont toujours soutenu?
Ah non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas pour des raisons politiques générales, mais alors en plus en année électorale. Cette crise est vraiment pour Biden est un désastre électoral et donc il va et donc c'est la raison pour laquelle vous avez vu Blinken, vous venez de le dire, c'est sa sixième visite au Moyen-Orient. En gros, Blinken se six fois en trois mois et il n'a rien obtenu de la part d'Israël et il n'obtiendra rien. D'autant que Netanyahou, non seulement les Israéliens veulent aller jusqu'au bout, mais en plus Netanyahou veut l'élection de Trump. Et donc Netanyahou poignardera Biden dans le dos à un moment, tôt ou tard.
Donc quand Emmanuel Macron parle d'une initiative française, on a bien entendu que vous mesurez les ambitions qui peuvent être celles de la diplomatie actuellement.
Ben, je pense qu'il le faut. Il faut. On ne peut pas se taire alors qu'il se passe ces tragédies à Gaza et que menace. Il y a la menace d'une opération militaire israélienne à Rafah où s'entassent dans des conditions affreuses 1,5 million de Palestiniens. Donc la communauté internationale doit faire le maximum de pression pour essayer de mettre un terme au combat. Mais soyons francs, ces moyens sont vraiment très limités.
Merci beaucoup Gérard Haro, merci d'avoir répondu aux questions de France Inter.
L'actualité ce soir, c'est aussi la Maison Blanche qui condamne les dernières frappes russes d'ampleur sur l'Ukraine. La nuit dernière, Moscou a lancé 90 missiles et 60 drones sur le pays. 5 personnes ont été tuées. Les infrastructures énergétiques très endommagées, la ville de Kharkiv notamment, a été privée d'électricité. Et c'est dans ce contexte toujours très inquiétant aux portes de l'Europe que Paris et Berlin annoncent aujourd'hui un accord pour développer le char du futur. Bonsoir Éric Biégalin.
Bonsoir Céline.
Cet accord, c'est un projet de longue date qui avait été retardé par des rivalités industrielles, des rivalités géopolitiques et qui est finalement débloqué.
Oui, c'est véritablement un accord politique, mais il organise le projet d'étude et de fabrication de ce MGCS, comme on l'appelle, c'est l'acronyme qui désigne ce char du futur. Il organise tout ça de manière simple et parfaitement égale. Les industriels et bureaux d'études qui participeront à la chose seront à 50% français et à 50% allemand. 8 piliers ont été définis dans ce programme. Celui qui doit concevoir et réaliser la plateforme du char, le châssis, sa motorisation. Celui qui doit intégrer les feux dits classiques, le canon, sa tourelle. Celui qui doit concevoir et fabriquer les feux dits innovants, rayon laser par exemple, ou missile embarqué. Tout ce qui est futur capteur de l'engin, radar, senseur, optique constitue un quatrième pilier. Il y a encore le développement des communications opérationnelles, ce qu'on appelle le cloud de combat, les simulateurs, la protection de ces plateformes, ainsi que l'étude des infrastructures qui seront nécessaires pour accueillir et maintenir en condition opérationnelle ces futurs engins. Alors l'horizon pour la mise en œuvre de ce MGCS sur les théâtres d'opération, c'est bien 2040. L'objectif reste inchangé, mais les premières notifications de contrats aux industriels pour les phases d'études tomberont dès la fin de l'année. Des contrats pour plusieurs centaines de millions d'euros seront notifiés aux industriels de défense français et allemands avant la fin 2024, promettons du côté du ministère des Armées.
Merci Eric Bielagala, spécialiste défense de France Inter. Depuis Bruxelles, où il participait à un sommet européen, Emmanuel Macron a lui défendu le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui a été rejeté hier par les sénateurs. C'est un très bon accord, assure le chef de l'État, qui dénonce la démagogie de ceux qui mettent tous les accords commerciaux dans le même sac. Le texte très contesté par les agriculteurs est appliqué depuis 2017 en Europe.
Emmanuel Macron qui prépare aussi l'opinion publique à de nouvelles coupes budgétaire.
Oui, face à la dégradation des finances publiques, dit le chef de l'État, et le déficit qui devrait atteindre 5,6% du PIB cette année, il faudra, je cite, compléter l'effort budgétaire. Il faut dire que l'exécutif exclut d'augmenter les impôts, ni pour les particuliers, ni pour les entreprises. C'est pourtant une idée qui revient régulièrement dans le débat public, portée parfois par des voix de la majorité, comme ce matin encore, Yael Braun-Pivet, interrogée sur France Bleu, la présidente de l'Assemblée nationale, se disait prête à entamer la réflexion sur une taxation des super-profits des entreprises. Aussitôt évoqué, aussitôt retoqué. Écoutez Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie.
Alors les impôts n'augmenteront pas. C'est un engagement que nous avons pris avec le président de la République. Les impôts n'augmenteront pas sur les Français, tout simplement parce qu'ils sont déjà très élevés. Nous avons fait baisser depuis 2017 et il serait complètement incohérent, sur un tête-à-queue complet, que dire nous avons baissé les impôts pendant 7 ans et puis maintenant nous allons les augmenter. Et nous n'avons jamais hésité, quand nous avons vu que de grandes multinationales faisaient des profits très importants, pas parce qu'elles avaient investi, pas parce qu'elles avaient modernisé leur outil de production, mais uniquement parce que les prix flambaient, les prix de l'énergie, les prix de l'électricité ou les prix du gaz. Elles pouvaient se constituer des rentes. Nous avons récupéré l'argent de ces rentes pour le redistribuer aux Français et financer le bouclier tarifaire. Ça n'est pas une augmentation d'impôts, c'est rétablir de la justice sur des entreprises qui ont des rentes, tout simplement parce que les prix flambent.
Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie sur BFM TV. Une grève illimitée votée par les salariés de La Provence qui protestent contre la mise à pied du directeur de leur rédaction. Ce dernier a été sanctionné à cause d'une une jugée ambiguë. Au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, les syndicats du quotidien parlent d'un prétexte et dénoncent des pressions politiques. Le propriétaire de La Provence, l'armateur Rodolphe Saadé, a annoncé la semaine dernière le rachat de BFM TV. On sera à Marseille dans le journal de 19h. À Toul, c'est une statue qui provoque la polémique. Une statue en hommage au général Marcel Bijard qui est né dans cette commune de Meurthe-et-Moselle et que la municipalité s'apprête à installer dans un square de la ville. Sauf que le général Bijard est une figure très controversée de la guerre d'Algérie. Un collectif d'associations et d'historiens s'oppose à cet hommage et la mairie semble bien embarrassée, Mohand Chibani.
Haute de 2,50 m, la statue représente le général en tenue de paras. Elle est pour l'heure secrètement gardée dans l'enceinte du 516e régiment du train à Écrouves et elle trouvera bientôt sa place dans un square de Toul. Le maire Aldarman se défend d'être à l'initiative du projet.
C'est pas la ville qui a commandé une statue, qui a fait faire une statue ni quoi que ce soit. C'est la fondation Bijard qui a lancé une souscription et qui a permis donc la fonte d'une statue. Mais voilà, on n'est pas à l'initiative, on l'a accepté. Donc vous voyez, c'est un sujet qui reste sensible, polémique, hein, voilà, mais nous, c'est par rapport à un enfant de Toul.
Un enfant de Toul, certes, mais qui s'est distingué par ses méthodes brutales lors de la guerre d'Algérie, dénonce un collectif d'opposants au projet, dont fait partie Philippe Leclerc, de la Ligue des droits de l'homme en Lorraine.
Bien sûr que pendant la guerre 39-45, il a eu un rôle important, il a été député, c'est aussi une autre partie de sa vie, mais c'est pas par rapport à ça qu'on proteste. C'est parce que la statue qui va être érigée, elle va être cette statue en uniforme de parachutiste. On ne veut pas honorer ce qu'il a fait et ce qu'il représente dans ce domaine-là.
Allusion aux crevettes Bijard, qui consistait à sceller les pieds de combattants algériens dans un bloc de béton avant de les jeter d'un hélicoptère en pleine mer.
Mohand Chibani de France Bleu Sud-Lorraine pour France Inter.
Il est accusé d'avoir attiré chez lui des jeunes femmes sous prétexte de faire des photos de mode.
Salim Berada, ancien photographe de 38 ans, est jugé en ce moment à Paris pour viol et agression sexuelle, celui que l'on surnomme le violeur de Tinder, car il a parfois utilisé les réseaux sociaux pour établir le contact, fait face à 17 jeunes femmes qui l'accusent et qui se succèdent à la barre. Bonsoir Charlotte Piré. Charlotte Piré, en direct du Palais de Justice de Paris. Bonsoir à vous. Parmi les parties civiles qui se sont exprimées aujourd'hui, il y avait Charline. C'est un nom d'emprunt pour cette jeune femme qui ne souhaite pas dévoiler son identité. Elle a livré un récit poignant qui résonne avec les précédents témoignages.
Oui, elle est la plus jeune des femmes qui se serrent sur les bancs des partis civils. Elle est aussi la neuvième à témoigner, grande, très mince, le corps secoué de tremblements. Lorsque le photographe la contacte pour une séance photo, Charline se sent flattée. J'admirais beaucoup son travail. Une fois chez lui, il sert deux verres, je bois le mien, la séance démarre, ça se passe bien. Très vite, elle commence à avoir des spasmes. Je me vomis dessus, raconte la jeune femme, qui prend peur, appelle un ami, je lui ai dit « Viens, je t'en supplie », car Charline se sent de plus en plus mal. « J'ai l'impression d'être sous drogue de synthèse », explique-t-elle. Avant de poursuivre sur le viol qu'elle dénonce, je lui ai dit non, je ne veux pas. Il me dit si, ça va te faire du bien, tu vas aimer ça. J'ai été abjecte, reconnaît Salim Berada dans le box. Elle était très jeune, on s'est embrassé, j'ai couché avec elle et je lui ai dit immédiatement de partir après. Mais de viol, il n'a jamais été question, insiste-t-il. Pour lui, si la jeune femme a porté plainte, c'est parce qu'elle s'est sentie humiliée. C'est insupportable, lâche alors Charline depuis le banc des partis civils avant de quitter la salle en larmes. Peu avant, l'avocat général l'a interrogé. Ces dénégations, vous le vivez comme un deuxième viol? Toujours tremblante, la jeune femme acquiesce.
Charlotte Piret en direct du Palais de Justice de Paris pour France Inter. À Montpellier, le tribunal administratif vient de débouter les associations environnementales qui s'opposent à la construction d'un golf près de Perpignan, dans un département qui souffre de sécheresse. Mais ce n'est pas un argument suffisant pour interrompre le projet en urgence, selon le juge. Ce matin, Christophe Béchu avait fait part de ses réserves. « Je ne soutiens pas ce projet », avait dit le ministre de la Transition écologique. Les obsèques de Frédéric Mitterrand auront lieu mardi prochain à l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris. C'est sa famille qui vient de l'annoncer. L'ancien ministre de la Culture est mort hier à l'âge de 76 ans. Une seule et unique journée pour tout répéter et s'assurer que la flamme ne court aucun danger. Un test grandeur nature du relais de la torche olympique avait lieu aujourd'hui dans l'Aube pour vérifier chaque détail du convoi des relayeurs. Un mois et demi avant l'arrivée de la flamme en France, 400 personnes étaient mobilisées et vous y êtes pour France Inter, Jérôme Val.
Pas de flamme, puisqu'elle ne sera allumée officiellement que le 16 avril à Olympie en Grèce, mais pour le reste, tout y est. La torche, éteinte, est bien là, comme à Nogent-sur-Seine.
Profitez, moi je suis derrière vous, et allez, vous n'hésitez pas. Allez-y.
90 relayeurs fictifs ont joué le jeu toute la journée, comme Aurélien.
Un peu de stress, il y avait eu beaucoup de monde. Pas l'habitude d'être devant tous ces gens, mais un peu de fierté de porter la flamme olympique en essai.
Durant cette simulation, il fallait tout vérifier, l'allure du convoi.
Vous gardez votre torche dans la main droite, allez très bien.
Le passage de témoins, bref, une multitude de détails pour être prêt le jour J, résume Grégory Murac, le patron du relais pour Paris 2024.
On essaye à chaque fois que, au moment où il y a donc l'échange de la flamme, que les relayeurs puissent se tourner d'un côté, de l'autre, du public, voilà, pour que tout le monde puisse voir la flamme, en profiter. Donc ça, y avait des petits réglages.
Et l'un des aspects les plus scrutés, c'est la sécurité des convois.
Vous ne pouvez pas rentrer dans la bulle, madame, pardon.
Près de 600 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui. Ce sera le cas tous les jours à partir du 8 mai. La préfète de l'Aube, Cécile Dindon.
C'est tout à fait exceptionnel en termes de mobilisation d'effectifs locaux. Le seul événement qui s'en rapproche, c'est le Tour de France.
Après le test, le département de l'Aube sera le théâtre du relais le 13 juillet, avec cette fois la flamme en vrai.
Reportage signé Jérôme Val. Et puis on termine par le choix culture du vendredi avec les stars mondiales du piano, les sœurs Labeck. Elles achèvent leur trilogie consacrée aux opéras de Philippe Glass, inspirée de l'œuvre de Cocteau. Après Les Enfants Terribles, voilà donc Orphée et La Belle et la Bête, Stéphane Capron.
Philippe Glass a composé cet hommage à Cocteau dans les années 90. Ce sont des opéras pour chœur et orchestre qu'il a fallu totalement recréer pour deux pianos. Michael Wiseman, qui collabore depuis longtemps avec Philippe Glass, a travaillé sur l'arrangement qui a nécessité beaucoup d'aller-retour. Katia Labeck.
Il nous a donné une base pour travailler extraordinaire, sur laquelle on a retravaillé, comme on fait toujours. On s'est repassé des parties. Enfin, on fait ça très souvent avec Marielle. C'est un vrai travail d'équipe et c'est une musique extraordinaire. Les gens n'ont pas encore perçu toute la grandeur de Philippe. C'est une dimension qu'on ne connaissait pas.
Le résultat est époustouflant. Au-delà du côté envoûtant des œuvres, les deux pianistes révèlent toutes les nuances des compositions de Philippe Glass, Marielle Labeck.
Parfois, les gens pensent que la musique répétitive, la musique de Philippe Glass, il faut la jouer toutes les notes égales et tout. Je suis tellement contre ça parce que c'est même une gamme. On fait pas toutes les notes égales. Enfin, si on fait de la musique, on fait de la musique. Sinon, faire toutes les notes égales, c'est la mort de toutes les musiques et pas seulement de la musique répétitive. Et là, on se rend compte qu'il y a au moins une trentaine de petites pièces avec les trois opéras. Et dans chaque, il y a vraiment un caractère différent. Il y a une couleur différente et c'est ce qui est intéressant.
Et pour la version concert de leur album, Katia et Marielle Labeck offrent un vrai spectacle au public, mis en scène par Cyril Test.
Et ce sera un spectacle à découvrir pendant les festivals de l'été prochain. Stéphane Capron du service culture de France Inter.
Eh bien, merci pour ces conseils. C'était le journal de Céline Asselot. On va prendre des nouvelles du temps à présent.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Le changement de temps va être spectaculaire.
Oui, les pluies arrivées par la Manche glissent vers le sud et l'est ce soir et cette nuit. Donc demain matin, elles vont s'attarder de l'Alsace au nord des Alpes et près des Pyrénées. Sur le reste du pays, ce sera partagé entre éclaircies, nuages, quelques averses sur le nord et sur l'est principalement. L'après-midi, ces averses vont se multiplier de la Manche vers le nord-est avec parfois du grésil, un orage et du vent. Le soleil sera généreux sur le sud-est jusqu'au sud du massif central et de Rhône-Alpes. Il y aura du vent en Méditerranée jusqu'à 80 km à l'heure pour la tramontane.
Et les températures vont chuter.
Exactement, 3 à 12 degrés attendus le matin et puis l'après-midi, belle dégringolade, hein, 8 à 13 degrés attendus au nord. Il a fait 19 degrés cet après-midi à Paris, 11 à 16 en allant vers le sud. On a eu 26 degrés cet après-midi à Bordeaux. Il fera encore 20 degrés tout de même en Méditerranée demain.
Merci beaucoup et à tout à l'heure, Elodie Calac de Météo France.